Bien, mesdames, messieurs, bonsoir. Nous recevons ce soir Philippe Alexandre, journaliste, éditorialiste, écrivain. Et nous le recevons ce soir pour son ouvrage « Le dictionnaire amoureux de la politique », publié dans une collection prestigieuse des dictionnaires amoureux, édité chez Plon. Je salue également tous les auditeurs qui nous rejoignent sur le site mola.com où vous écoutez, où vous pouvez réécouter cette conférence. Cher Philippe Alexandre, vous nous livrez un ouvrage très riche. Ce dictionnaire n'a pas moins de 184 entrées, ce qui est...
Je n'ai pas fait le compte.
Oui, mais je l'ai fait. C'est remarquable. Les Français aiment la politique. Mais seulement 7% font confiance au parti, d'après un sondage récent, et 83% estiment que leurs élus ne se préoccupent pas d'eux. Alors, avant d'entrer dans le détail de ce dictionnaire, vous allez nous raconter comment vous êtes tombé amoureux de la politique.
Oh, je ne sais pas tellement comment je suis tombé amoureux, parce que c'est il y a si longtemps de cela que bientôt je ne vais plus m'en souvenir. En fait, j'ai commencé à m'intéresser à la politique quand j'étais adolescent au lycée. C'était ces années 50 où on était très passionnés par la politique. Et nous étions lycéens, et alors pas en classe, parce qu'on était très disciplinés. Nous étions à l'époque où on se levait quand le professeur rentrait en classe. Les temps sont bien changés, aux récréations, on se passionnait pour la politique. Il se trouve que depuis très longtemps, je lisais tous les journaux, j'ai dévoré les journaux. Ma première passion, ça a été les journaux. Et c'est par les journaux que je suis venu à la politique, parce qu'il y avait à ce moment-là des comptes rendus in extenso des débats parlementaires. La politique se faisait à l'Assemblée nationale, ne se faisait pas ailleurs, elle ne se faisait pas dans les officines comme aujourd'hui, ou dans les instituts de sondage comme aujourd'hui. Elle se faisait vraiment à l'Assemblée, avec des joutes terribles, des orateurs magnifiques, des combats qui finissaient quelquefois par risquer de tomber à la bataille rangée. Alors les huissiers s'interposaient, tout ça. Et donc il n'y avait évidemment pas la télévision à ce moment-là. Et moi, je suivais ça dans les journaux, parce que les journaux ont publié des pages entières, Le Figaro, Le Monde, tout ça, l'Aurore, Combat, publiaient des pages entières là-dedans. C'est comme ça que j'ai eu vraiment l'amour de la politique, parce que il y avait quelque chose qui m'a beaucoup séduit dans la politique. J'adorais les mots, j'ai toujours aimé le jeu des mots. Le langage, il y avait vraiment des orateurs formidables, avec des formules éblouissantes, avec une culture extraordinaire qui vous balançait au détour d'une phrase sans avoir l'air d'y toucher. Et tout ça, j'ai trouvé que c'était merveilleux, c'était vraiment pour moi la France dans sa splendeur, quelque chose qu'aucun autre pays n'a, avec cette histoire si riche qui est la nôtre, avec toutes nos épopées depuis Napoléon jusqu'aux colonies, etc. Donc voilà, c'est comme ça que je suis rentré à pieds joints dans la politique. Après, évidemment, quand j'étais étudiant, j'ai fait beaucoup d'histoire, je me suis passionné pour l'histoire, mais je continuais toujours à me passionner pour la politique à travers la presse, si bien qu'un beau jour, j'ai envoyé un article à un journal qui était très prestigieux, qui s'appelait Combat. J'avais 19 ans, je ne doutais de rien. Je l'envoyais par la poste et deux jours après, je suis tombé de l'armoire, comme dirait Jacques Chirac, et l'article était publié en pleine page. Alors je suis allé voir le directeur du journal et je lui ai demandé de me payer, ce qui évidemment il a rigolé.
Vous avez payé comment?
Il m'a payé en ticket de métro. Et je lui ai demandé plus sérieusement alors de venir faire des articles pour lui, et c'est comme ça que j'ai commencé. J'ai commencé pas tellement dans la politique, parce que mes premiers articles, je m'envoyais faire des interviews de metteur en scène de cinéma. Comme mon premier article avait été sur la télévision naissante, et voilà. Et après, je suis venu à la politique et j'ai fait beaucoup de choses dans le journalisme, toutes sortes de métiers dans le journalisme. Et puis, il se trouve qu'en mai 68, j'habitais au Quartier Latin, en face de la Sorbonne. J'étais aux premières loges. Et évidemment, ça m'a passionné. J'ai vécu ça vraiment avec beaucoup d'amusement, parce que c'était quand même pas très sérieux. Hein. Aujourd'hui, rétrospectivement, on se demande comment un mouvement qui avait plutôt un caractère estudiantin a pu provoquer une telle panique dans les ministères. Vous pouvez pas savoir, dans les ministères étaient vides. Hein. Les gens fuyaient comme des rats quand il y a plus de fromage, etc. Donc c'était vraiment incroyable. Et moi je voyais ça, je voyais cette fête permanente. Bon, alors il y avait quelques barricades. C'est vrai qu'en bas de chez moi, il y a eu la plus grosse. Bon, ça faisait un peu peur, mais voilà, c'était quand même très maîtrisé. Et donc, c'est à ce moment-là que je suis rentré vraiment tout à fait dans la politique, et j'ai fait un livre qui s'est pas très bien vendu, qui a été très, très bien reçu par la critique et par mes confrères journalistes, et c'est comme ça que je suis rentré à RTL pour faire de une chronique politique.
Alors, à RTL, donc vous êtes à RTL avec quelques aventures à RTL. Là, il faut que, parce que moi qui étais un de vos auditeurs, je pense que ici dans cette salle, nombreux sont aussi ceux qui vous ont écouté. Alors racontez-nous vos aventures à RTL. Quelle était l'ambiance à RTL ?
Une ambiance formidable. Ça, une ambiance extraordinaire. On était très, très, très... on était jeunes en général. La plupart des gens étaient jeunes. Il n'y avait pas beaucoup de femmes. Hein. Les femmes dans les rédactions, ça crée du désordre. Hein. Là, il n'y avait pas trop de femmes parce que vous avez un directeur qui disait « On a quelques femmes dans la rédaction, mais il ne faut surtout pas les mettre au micro parce que ça ne donne pas une information très crédible. » Aujourd'hui, ils n'oseraient pas dire ça. Et donc, il y avait une ambiance absolument extraordinaire. Et on avait surtout une très grande liberté à l'époque, puisque RTL avait tenu tête au général de Gaulle. Parce que RTL, il y avait un chroniqueur qui me précédait beaucoup, qui s'appelait Jean Grandmougin, et qui avait choisi l'Algérie française.
Et alors, qui a été viré.
Et alors, De Gaulle a beaucoup fait pour le virer. Il a été viré, finalement, il a été viré, mais il a été beaucoup défendu par le gouvernement luxembourgeois. Et c'est ce qui est arrivé ensuite, moi, quand j'y étais. Ce qui fait que moi, j'avais une conception un peu désuète, on va dire, du métier de journaliste politique. On m'avait appris, et puis les gens qui avaient du prestige à mes yeux le faisaient, qu'un journaliste politique, ce n'est pas un anti-pouvoir, c'est un contre-pouvoir. C'est quelque chose qui doit n'avoir aucun lien avec le pouvoir, et moi, je m'interdisais d'avoir des relations de copinage avec les hommes politiques. Hein. Je m'interdisais de tutoyer qui que ce soit, même ceux qui avaient un âge beaucoup, beaucoup moins respectable que le mien. Et Sarkozy ne me tutoyait pas, je peux vous dire. Et donc c'était une autre conception de la politique et des rapports entre les journalistes et les hommes politiques. Et donc j'ai usé de la liberté qui était la mienne, usé, quelquefois peut-être abusé. Mais le directeur de RTL, le fondateur, on va dire, le créateur de RTL, celui qui a fait toutes les émissions emblématiques de RTL, depuis les grosses têtes jusqu'au journal inattendu, etc., m'avait dit qu'il était un grand journaliste lui-même qui venait de Paris Match, qui était une grande plume du journalisme, et qui était très gaulliste, d'ailleurs, c'est pour ça qu'il a été écarté par... Giscard d'Estaing, parce qu'il soutenait Jacques Chirac, à l'époque ça ne pardonnait pas. Et donc, il m'avait dit, n'oubliez pas que votre métier, c'est de réveiller les gens. Hein. Parce qu'au début, je passais à 7h15 du matin. Alors, il me disait, il faut que les gens sautent du lit, hop, en vous écoutant, et qu'ils aillent au boulot. Ce qui fait que, hein, pour les faire sortir du confort douillet de la plume et de la soie, quelquefois, j'y allais un peu fort. Bon. Et chaque fois, on ne me disait rien. On me disait, c'est très bien. Bon. Alors, donc, j'ai continué. Pendant une trentaine d'années. Alors évidemment, ça ne plaisait pas à tout le monde. Alors je n'ai pas eu d'ennui du tout du temps de Pompidou. Il se trouve que j'étais assez bien reçu par Pompidou. Pompidou était un homme qui aimait beaucoup les journalistes et
qui les recevait à table.
Il les recevait à table. Il faisait très très souvent. Peut-être deux fois par mois, il faisait un déjeuner, nous étions à peu près une dizaine et tout, il y avait les chroniqueurs de l'époque, il y avait plus de grandes voix et de grandes plumes qu'aujourd'hui, il y avait Jean-François Kahn, des gens comme ça, et il lisait nos copies, il les annotait. Vous savez qu'il a été prof très longtemps, ça lui était resté. Il a noté les pieds. Il disait, mais pourquoi vous avez écrit ça et vous avez écrit comme ça? J'aurais pas dit ça comme ça, etc. C'était bon. Alors moi, j'avais des bonnes relations avec lui. Pourquoi est-ce que j'avais des bonnes relations? Oui, parce que, je sais pas. Bref, ça s'est passé comme ça. C'était un homme qui était assez impressionnant, assez intimidant. Un homme qui, contrairement à ce qu'on pourrait croire, était assez rugueux. Hein. N'était pas du tout. Il caressait pas les gens dans le sens du poil. C'était pas la politique néo-radical socialiste. Non, pas du tout. Alors qu'il l'était un peu au fond, radical socialiste. Et donc, le temps de Pompidou, ça s'est très bien passé. C'est du temps de Giscard que ça a commencé à déraper.
Ça a commencé à se déraper.
Voilà. Alors moi, j'avais des relations particulières avec Giscard, si j'ose dire. Hein. Rassurez-vous, c'est tout à fait avouable. C'est que j'ai un frère qui est polytechnicien et qui était dans la même promotion que Giscard, qui était même sorti dans un meilleur rang, mais enfin, Giscard l'avait peut-être oublié. Et chaque fois qu'il me voyait arriver ou qu'il y avait une réunion de presse, il me disait « Oh, comment va votre frère ?» Et je lui disais « Vous le voyez peut-être plus que moi. » Et alors, il se trouve que mon frère était directeur du PMU. Alors, il trouvait ça absolument extravagant, moi aussi d'ailleurs, qu'un polytechnicien soit directeur du PMU. Mais enfin, bon. Donc, j'avais des relations avec lui qui étaient plutôt pas trop mauvaises. Et puis, ça a dérapé. Un jour, j'ai commencé à me moquer du protocole, de cette espèce de fausse monarchie qui était installée à l'Élysée. Et il se croyait, et il se croit toujours vraiment descendant de Louis XV. Alors il paraît que des généalogistes ont trouvé qu'en effet, il y a une Madame Giscard a été descendante de je ne sais qui. Enfin bref, il a racheté, vous savez qu'il a racheté le château d'Estaing très cher pour le faire visiter aux gens. Donc. Alors là, j'ai commencé à m'amuser avec ça. C'était pain béni. Vous pensez, tous les matins, je faisais rigoler un peu les auditeurs. Un jour, il a reçu son gouvernement tout entier, les femmes. Avec les femmes, hein. Il fallait venir avec sa femme, et tout le monde en tenue de soirée. Alors, bon, c'était bizarre, hein, quand même. Les ministres, secrétaires d'État, tous autour de la table, par petite table, ils ont été reçus, il y a eu un dîner, et après, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait des petits jeux de société comme on en faisait du temps de mon arrière-grand-père. Hein. Vous savez, alors, on joue aux ambassadeurs et tout ça. Des trucs absolument extravagants. C'est là qu'ils ont commencé tous à considérer qu'il y avait... C'était quand même un peu bizarre. Alors après, l'affaire des diamants, ça a été aussi. Et mes relations avec Giscard se sont tout à fait... dégradé, et du coup avec RTL également. Et vient la campagne de 1981, Et Giscard d'Estaing de ne pas venir à RTL. Alors que c'était quand même une très grande radio et qu'il y avait des temps réservés, lui, il envoyait des sous-fifres et il ne venait pas à RTL. Bon, il s'est privé quand même d'une bonne tribune, me semble-t-il. Et après, quelques temps plus tard, après qu'il soit passé le temps du veuvage, comme il disait, il est venu un jour à RTL assister à une émission, puis alors après participer à une émission, puis après il y avait un dîner où toute la rédaction était là. Alors le rédacteur en chef, le directeur de la rédaction, qui s'appelait Alexandre Balou, entre la poire et le fromage, lui a dit « Monsieur le Président, expliquez-nous maintenant pourquoi pendant la campagne présidentielle vous n'êtes pas venu à RTL ?» Alors il a eu un petit blanc, tout petit, et il a regardé un peu le plafond, il a dit « Je ne suis pas venu à RTL ?» Il s'est tourné vers son attaché de presse. « Mylène, je ne suis vraiment pas venu à RTL. » On a tous éclaté de rire et il est passé à autre chose. Voilà les problèmes avec Giscard. Alors après avec...
Il a quand même essayé de vous exiler aux États-Unis.
Alors non, ça c'est pas lui, c'est Mitterrand.
Ça c'est Mitterrand, ça, avec Rousselet. Oui.
C'est Rousselet. Mitterrand. Giscard, il avait simplement dit « Si je suis réélu, on balancera illico... Rigaud, qui était l'administrateur délégué de RTL, qu'il avait nommé lui-même, mais qu'il avait nommé après avoir essayé trois de ces gens. Et chaque fois, on s'est débrouillé avec le gouvernement luxembourgeois pour les faire torpiller, parce qu'ils n'étaient pas faits pour ça. Ils venaient de la finance, ils n'étaient pas du tout faits pour diriger une radio. Donc ça a un peu aggravé nos relations avec le président de la République. Alors après arrive Mitterrand, et Mitterrand, ce qui s'est passé, c'est que dès qu'il a été élu en 1980, il a fait le ménage dans tous les médias. Vous vous rappelez, il avait fait virer El Kabach et Duhamel, parce qu'il y avait eu des meetings où on brandissait au bout des pics les têtes de ce malheureux Duhamel. Il, à mon avis, ne vaut pas une révolution. Il avait viré, il avait fait vraiment le ménage, et ça s'était plutôt mal passé, dans la mesure où les remplaçants ne valaient pas ceux qui étaient remplacés. Donc, les radios et les télévisions, les radios notamment, ont commencé à voir leur audience chuter. Et nous, qui étions passés à travers les bouts, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de possibilités à l'époque de le faire sans l'accord du gouvernement luxembourgeois, on a eu notre audience qui a monté. C'est à ce moment-là que l'écart s'est creusé entre RTL et Europe. Europe était le grand média de l'information de matin, et puis tout d'un coup, nous, on apparaissait comme des gens de liberté, d'impertinence, et hop, l'audience a grimpé. Donc, ce qui fait qu'un jour, Mitterrand a demandé à son directeur de cabinet, qui était André Rousselet, de demander à l'administrateur délégué de RTL de m'envoyer aux États-Unis. Pourquoi les États-Unis? J'en sais rien du tout.
Non, c'est rien.
J'ai rien contre. J'ai rien contre. Donc, il ne pouvait pas me mettre à la porte parce que je n'avais pas mérité ça, mais enfin, ma voix aurait été beaucoup plus lointaine. Et donc, j'ai été convoqué par cet administrateur délégué qui m'a expliqué que, bon, RTL était engagé dans des négociations difficiles, le gouvernement luxembourgeois, pour des questions de longueur d'onde pour la télévision, de machin truc auquel j'ai rien compris. Bref, j'ai compris qu'il fallait que je mette un coup. Donc j'ai fait, comme j'ai des amis dans la presse, beaucoup, j'ai fait une grande interview, j'ai raconté toute l'histoire en disant, en traînant dans la boue, le gouvernement, mon administrateur délégué, tout, j'y suis allé franco de port. Et évidemment, je suis rentré à RTL, j'ai dit, s'ils sont courageux, ils me foutent à la porte, et sinon, on est tranquille pour 10 ans. Ça a été la seconde hypothèse qui s'est passée. Puis un peu plus tard, d'ailleurs, il a essayé, Mitterrand encore, de remplacer le même administrateur délégué que vous connaissez, il s'appelle Jacques Rigaud. Oui. Il a essayé de le remplacer par quelqu'un à lui, mais là encore, il est tombé sur un os. Et voilà. Donc voilà les histoires. Après, ça a été beaucoup plus calme. Après, il y a eu... Il y a eu Chirac, ça s'est bien passé.
Dites-moi voir pourquoi vous êtes devenu très tôt allergique au charme tacticien de Mitterrand.
Écoutez, ça c'est difficile à dire. Moi j'appartiens à une génération, je crois que le premier reportage important que j'étais appelé à faire. J'étais jeune journaliste, c'était au moment de l'affaire de l'Observatoire, fameuse affaire. Il se trouve que je connais très très bien le quartier en plus, parce que j'y suis né. Donc j'ai vécu toute mon enfance. Donc ça m'amusait beaucoup, ça m'intéressait, j'ai fait une enquête et tout, je connaissais tout le monde, j'ai rencontré le tireur, parce qu'on avait engagé, c'était le dénommé Pesquet qui avait monté toute cette histoire avec Mitterrand d'ailleurs, et c'était un faux attentat, je vous rappelle, dans les jardins de l'Observatoire, pampant, et il y avait un coup de feu, et il pouvait, comme ça, Mitterrand pouvait dire « je suis victime de ces vilains gaullistes », parce que ça commençait déjà comme ça. Et alors, ce sont des choses qui ne s'inventent pas. Le tireur qui avait été chargé de tirer les coups de feu était un brave Normand, un ahuri Normand qui s'appelait Dahuron. Et vraiment, c'était un personnage de, vous savez, comme il y en a dans les nouvelles de Maupassant, un grand rouquin qui ne savait pas du tout ce qu'il faisait là. Et on a dû lui donner un peu d'argent et il a tiré ses coups de feu. Et voilà, la France s'est réveillée avec cette histoire. Alors ça m'avait beaucoup amusé. J'avais fait plusieurs articles là-dessus, ça m'avait à la fois amusé et un peu indigné quand même. Parce que vraiment, c'était prendre la fonction politique pour laquelle j'avais, et j'ai toujours beaucoup de respect, de s'en servir et de la dévoyer un peu. Et moi, j'étais jeune et naïf, et je pensais que c'était pas bien, quand on avait été ministre de la République, quand il avait été ministre, de nous monter cette mascarade-là, de mentir aux magistrats et être obligé après de faire des aveux. Enfin, je trouvais que c'était pas bien. Donc, après, je ne l'ai pas vu depuis...
Oui, alors vous avez le chic de poser des questions qu'il ne faut pas. Vous allez manger à sa table et vous lui posez des questions qui ne plaisent pas.
Oui, ça a été tout de suite après 80. Parce qu'après, nos relations étaient un petit peu dans le scie. J'ai eu un vrai différend avec lui. Parce que j'ai publié un livre dans lequel j'ai raconté ce qui était... finalement peut-être plutôt à son honneur, qu'à une réunion qu'après le programme commun, la signature du programme commun, Mitterrand avait été à une réunion des dirigeants socialistes européens, c'était au Danemark, et pris à partie par l'Allemand Helmut Schmidt, qui lui disait « mais le mariage avec les communistes, c'est affreux, c'est épouvantable, vous ne pouvez pas faire ça ». Et Mitterrand avait fait tout un exposé très brillant pour expliquer que faire venir les communistes au gouvernement, c'était la façon de les réduire, disait-il, à une position marginale. Ce qui est très, très habile. Mais enfin, au moment où je l'ai publié, c'était un peu tôt, c'était en plein dans la... Dans le programme commun, dans l'idylle avec le Parti communiste, et ça le gênait un peu. Alors, chaque fois qu'il y avait des débats auxquels j'assistais, quand il venait à RTL, il faisait un peu grise mine. Puis après, j'ai eu un autre accrochage avec lui.
Oui, racontez cette histoire d'émission que vous aviez fixée avec Bianco.
Oui, on devait aller... C'était juste avant son élection. On devait aller l'interviewer dans sa Nièvre. Et puis, on arrive à l'époque, on faisait pas ça, il fallait emporter un camion avec un vrai studio. Enfin, c'était compliqué. Donc, on y va, je dis on. Il y avait un technicien, il y avait une assistante et il y avait moi. On était trois. Et on y va, on avait rendez-vous à 3h de l'après-midi, à 5h moins le quart, il n'était toujours pas là. Truc habituel. Alors moi, je râlais un peu, je disais, on va rentrer, tant pis, on ne fait pas l'émission. Et au moment, il y a toujours une espèce de... Il avait un dieu pour lui, juste au moment où j'allais plier bagages, hop, il arrive, il ne s'excuse pas, il dit, mais puisque vous aviez beaucoup de temps, vous êtes passé à Vézelay. Et il commence à me faire tout un cours sur Vézelay. Je le laisse passer, me parler un quart d'heure. Je lui dis, écoutez, vous ne me cassez pas la tête. J'y ai fait mes premiers pas. Ma famille est à Vézelay depuis 3 générations. Alors il a cru que... Il m'a posé quelques questions, vous savez, comme au quiz, auxquelles j'ai pu répondre. Il a vu que c'était vrai et il s'est vexé un peu. Donc voilà, j'ai eu et puis alors, après 80, surtout, j'ai eu un petit accrochage avec lui à propos des 39 heures. Il disait, les 39 heures, payez 40, ça marchera pas, ça rapportera rien du tout, vous réduirez pas le chômage avec ça. Et j'avais dit ça à un beau moment où, non, il venait d'être réélu un repas comme ça, il y avait une trentaine de journalistes et tout, moi je devais être pas très loin de lui, et ça n'a pas bien marché. Donc à partir de ce moment-là, je n'ai plus du tout été reçu à l'Élysée, et je n'ai eu des contacts que très distants avec lui. Jusqu'au jour où avant 88, en novembre 87, il était question qu'il se représente, et il ne venait jamais à RTL. À cause peut-être de moi, j'en sais rien. En tout cas, il ne venait jamais à RTL. Et moi, je connaissais bien quand même des gens de son entourage, Jean-Louis Bianco notamment.
Incroyable, la radio la plus écoutée de France.
Qui était secrétaire général. Oui, ça ne m'empêchait pas, la radio la plus écoutée de France, d'être la plus écoutée de France quand elle se passait de la voix de M. Giscard d'Estaing ou de M. Mitterrand. Et je dis à Jean-Louis Blanco, ça fout quand même mal. Hein. Il va, président de la République, qui est là depuis 7 ans, il va se représenter, et peut-être. Et il boycotte la première radio de France, ça la fout mal. Alors, pour réparer tout, il faut qu'il nous donne une heure d'interview, interview en tête à tête, et je la ferai. Et moi, je ne faisais jamais d'interview à RTL, je faisais ma petite chronique, c'était beaucoup plus. Alors là, il m'a invité à déjeuner, à prendre le petit déjeuner dans la bibliothèque, et il a été d'accord. Et il a dit avant qu'il vienne. Donc j'arrive dans la bibliothèque, et le premier quart d'heure a été épouvantable. Il a commencé à... J'étais vraiment le mauvais élève pris en faute et tout. Et pourquoi le jeudi matin, vous n'êtes pas venu à la cour de géographie et tout. Alors bon, je me suis dit, là, il faut que je m'en aille parce que c'est pas tellement moi, c'est même RTL qui traite de façon méprisante. Et j'ai probablement bougé imperceptiblement la fesse droite pour me lever du machin. Et à ce moment-là, changement, il était formidable. Changement, il sait comment. Ça a été un numéro de charme et tout, absolument parfait. Bon. Et c'est d'ailleurs ce jour-là que je lui dis, parce qu'il comprenait tout au quart de tour, hein, quand même. Il était quand même fort. C'était vraiment un esprit absolument Ouais, génial, il avait un génie de la politique et de tout ce qui va avec, dans le bon et dans le mauvais. Et je lui dis, je sais pas, on parlait de l'école, de l'éducation nationale. Et je lui dis, ah oui, moi j'ai une fille qui est au lycée Henri IV. Alors il a tout de suite compris que je savais, que je connaissais bien l'existence de Mazarine, parce que tous les élèves d'Henri IV connaissaient évidemment l'existence de Mazarine, qui n'était pas du tout clandestine à l'époque. Et donc, en 1993 ou 14, j'ai sorti un livre où, pour la première fois, au moment où Match a fait les photos de Mazarine, moi, je m'étais mis d'accord avec le Match, dont je connaissais très très bien le directeur, et je sortais le livre avec, en parlant de Mazarine dans le livre. Et alors tout le monde m'est tombé à bras raccourcis sur nous, sur Match et sur moi. Françoise Giroux, qui avait écrit elle-même un livre où elle avait raconté des tas de choses sur le président de la République et sa vie privée, nous a traités de ramasseurs de poubelles ou de je sais quoi, de caniveaux, la presse de caniveaux.
De caniveaux.
Hein, de caniveaux. Et tout le monde, et moi je savais que Mitterrand était tout à fait au courant, qu'il ne m'en voudrait pas du tout, au contraire, il voulait que sa fille soit reconnue, et je savais depuis, il savait que je savais, et donc il n'y avait pas aucune ambiguïté. Alors pour en revenir à l'émission, donc une heure, j'avais bien préparé mes dossiers, mais il se trouve que c'était au moment où il y avait des affaires, hein, il y en avait tous les mois. Alors c'était une affaire assez importante qui s'appelait l'affaire Luchère. C'est-à-dire, c'est une vente d'armes qui avait eu lieu pour l'Iran malgré un embargo qui était décidé. Et il y avait un énorme soupçon que cette vente d'armes ait généré des rétrocommissions, lesquelles avaient servi à financer le parti socialiste. À l'époque, on était beaucoup moins rigoureux sur les rétrocommissions, ça se faisait de façon assez courante. Mais enfin là, il y avait un embargo, c'était une situation peu particulière. Et puis c'est le moment aussi où ce malheureux Charles Hernu a eu beaucoup de malheur, c'était après l'affaire du Rainbow Warrior, et il était tout à fait en disgrâce, et Mitterrand avait été obligé de l'écarter du gouvernement, parce que vraiment tous ses ministres le lui demandaient, et il n'aimait pas sacrifier ses amis. Ses amis, toucher à ses amis, c'était le toucher lui-même. Donc tout ça fait que l'émission était vraiment... Moi, j'avais bien préparé mon truc, mais enfin, je ne suis pas un spécialiste des interviews, j'en fais assez peu, j'en avais fait très peu quand même. Une heure en face de Mitterrand, il fallait le faire. Donc, il n'y avait personne dans la pièce où on faisait l'émission. Moi, j'avais demandé qu'il n'y ait pas toute la cour de Mitterrand, et qu'il y ait juste un technicien qui était au bout de la pièce, un peu comme notre ami, et c'est tout. Et on avait décidé qu'au bout d'une demi-heure, on ferait une pause de publicité. C'était vraiment une émission tout à fait normale qu'on faisait, sauf qu'elle avait lieu à l'Élysée. Et alors je fais toute ma première demi-heure sur l'affaire Luchère et tout, le financement du parti et Hernu, et on y va, je remue la sauce et tout, hop. Et c'était une période un peu difficile pour le président de la République. À l'époque, on était en pleine cohabitation. Hein, c'était en 1987, c'était à la fin de l'année, on ne savait pas, les gens disaient qu'ils ne pourraient pas se représenter, il y a eu trop d'affaires, etc. Donc c'était un peu difficile, mais il fallait en même temps, quoi, moi, je ne faisais pas le quart du millième du poids en face de lui, il fallait donc que je connaisse bien mes dossiers et tout, donc j'avais bien potassé. Donc on arrive au bout d'une demi-heure, on fait la pause de publicité, alors il me jette un regard furibard. Il me dit, on ne va pas faire toute l'émission sur ces affaires-là. Ah, je lui ai dit, non, non, rassurez-vous, vous allez voir et tout. Alors, hop, je me suis dit, là, il y a une... Là, le fer est engagé, il faut continuer. Et au bout de la pause de publicité, on reprend, et je reprends sur les affaires. Mais enfin, bon, ça, c'est bien terminé. Après, on a parlé d'autre chose quand même, mais ça, c'est bien terminé. Enfin, voilà. Voilà, mes relations avec Mitterrand, ça a été comme ça. Mais... ça a été quand même un très grand président, hein. Justement un président peut-être de cette race d'hommes politiques qui n'existe plus, avec une immense culture,
classique,
une formidable culture historique. Lui était capable de vous réciter toute la litanie des rois fainéants depuis. Trop même, quelquefois, il étalait un peu trop sa culture historique, et qui avait le sens incroyable de la tactique, mais d'une tactique de batteur, d'escrimeur, du combat avec les mots aussi, ce qui m'a toujours beaucoup fasciné. Donc pour moi, c'était un président qui était très très passionnant à suivre, précisément à cause de ça, un président très classique dans l'histoire de la politique française. Il s'inscrit vraiment dans la lignée des grands hommes politiques de la Troisième République, puisqu'il y en a eu quand même beaucoup, et un peu aussi de la Quatrième, mais surtout de la Troisième. Et au fond, c'est un type d'homme politique qu'on ne verra plus, probablement. Il y a des choses comme ça qui vont disparaître. La presse écrite est en train de crever. L'écrit, d'une façon, je le dis pas trop fort dans cette maison, mais c'est vrai, les livres vont se vendre de moins en moins parce qu'on aura les tablettes, et etc. Donc, il va y avoir toute une... Et évidemment, la politique aussi, elle va évoluer. Regardez, avant, il y avait très peu de médias. Finalement, les médias ne jouaient pas le rôle qu'ils jouent actuellement dans la vie politique. Il y avait 3 chaînes de télévision, et encore, même souvent 2 seulement. Et maintenant, il y en a, je ne sais pas, moi, 160, quand on regarde son écran de télévision.
Sans compter Internet.
Et Internet et tout ça fait qu'on n'a plus besoin d'avoir des hommes politiques qui connaissent l'histoire de France, ou qui ont lu, comme Mitterrand, Chardonne et Chateaubriand, mais on a besoin d'avoir des hommes qui ont l'usage des nouveaux médias et des réseaux et de cette immédiateté de la vie politique qui est quand même un peu un écueil, hein. Une vie politique raisonnable devrait se dérouler sans cette immédiateté, sans cette tyrannie de l'instant.
Il y a l'énigme de l'or. Alors vous dites, pour moi c'était une énigme, mais finalement vous aviez débusqué très vite, dès 85, vous dites, moi j'avais compris.
Bah, c'est-à-dire que bon, je n'ai pas grand mérite. En 85, il a été quelque temps, après avoir été donc ministre des Finances, il n'a été plus rien en 85. Il a quitté le gouvernement. Dans le gouvernement Fabius, il n'était déjà plus, je crois. Et si mes mémoires... Et il a été quelque temps maire de Cachan. C'était un maire tout à fait extraordinaire. Il vous recevait, il y avait un beau bureau lisse comme ça. Et on a l'impression qu'il ne s'occupait pas du tout des affaires de sa mairie. Je crois qu'il ne s'en occupait pas, ça ne l'amusait pas du tout. D'ailleurs, très très vite, il a sauté sur l'occasion et il est parti, il est allé à Bruxelles pour être président de la Commission européenne. Et il était d'ailleurs un très grand président, on n'en aura pas de sitôt d'aussi grand. Et donc, j'avais proposé de faire un livre avec lui, non pas un livre de dialogue, mais vraiment un livre où on pourrait chacun écrire ce qu'on avait envie d'écrire, ce qu'on a fait, un livre qui portait un titre qu'on pourrait reprendre aujourd'hui, qui s'intitulait « En sortir ou pas ». Et donc, j'allais souvent à Bruxelles, une fois qu'il a été nommé à Bruxelles, pour, faire des entretiens, pour pouvoir faire le livre. Et on commençait à l'époque, à la fin de 85-86, on commençait déjà à penser à l'élection présidentielle. On croyait que Mitterrand serait trop âgé et trop malade, parce que la plupart des gens savaient quand même qu'il était souffrant et qu'il était gravement souffrant et qu'il ne se représenterait pas et que par conséquent, les socialistes, ils cherchaient des gens pour essayer de conserver le... Et Delors était un de ceux qui était plausible. Hein, beaucoup plus Fabius était trop jeune, Gaston Defer était trop vieux, il avait quand même le profil, c'était un homme sage, il avait eu plutôt une réussite, hein, malgré les difficultés qu'il a eues, puisqu'il y a eu beaucoup de dévaluations, il y a eu beaucoup de mal au début avec la politique de Mitterrand et du gouvernement, mais il avait plutôt réussi, et donc on lui disait, moi je me disais toujours, je ne le ferai jamais. Je ne veux pas me transformer en vendeur de cravates.
Vendeur de cravates.
Et c'était son expression, et donc je ne serai jamais candidat. Et il me le disait tellement, avec tellement de force et de conviction que j'ai tout de suite pensé qu'il ne serait pas candidat. Et c'est quand même bizarre, on ne trouvera pas... d'ici longtemps, quelqu'un à qui vraiment le pouvoir est promis comme ça, sur un... Car il aurait été élu, probablement. Il aurait probablement été élu. Il aurait été élu beaucoup plus que Chirac, il a été finalement. Je crois qu'il a eu peur de la campagne. Il n'avait pas envie de faire la campagne, qui est quelque chose de très cruel et de très dur. Il le savait très bien. Et Mitterrand, qui n'aimait personne, surtout pas les siens, disait, il n'ira pas, vous pensez bien, il ne veut pas aller compromettre sa belle vertu et sa belle image sanctifiée dans une campagne électorale où on reçoit des vilains coups.
Alors, il y en a, on va sauter un peu en arrière. Vous dites qu'il n'était pas doué d'un humour renversant. Est-ce que vous auriez pris Georges Marchais en autostop, vous?
Oh, moi, j'aurais pris en autostop.
Vous l'auriez pris en stop.
Oui, je l'aurais pris en fin. Oui, il ne faisait pas peur. Il jouait beaucoup le rôle du grand méchant loup. Oh, ce n'était pas un personnage qui était très... Non, il n'était pas très effrayant. Ce n'était pas une très grande pointure, on va dire. Franchement, c'était un type qui maîtrisait formidablement bien la communication. Il avait une grosse voix, il avait des sourcils, il avait des épaules. Alors, j'en croyais qu'il y avait beaucoup de choses derrière tout ça, mais il n'y avait pas grand-chose. Le Parti communiste, à l'époque, représentait encore cette illusion... Cette illusion, pour reprendre le titre d'un livre qui a tellement régné sur les cerveaux français, les grands cerveaux, depuis 1920 jusqu'à 1990, 70 ans, on a l'impression que tout ce qu'il y avait d'intelligent et de qualité en France était marxiste, avait la carte du Parti communiste. Et c'est aujourd'hui qu'on regarde ça, on tombe à la renverse en disant vraiment les gens ne voyaient pas beaucoup plus loin que le bout de leur nez. Et alors donc, il est le dernier représentant Marchais de cette époque-là. Et ça a été, lui-même était une illusion, c'était un personnage qui était beaucoup plus fragile que ce qu'on a pu croire. Et notamment, il a été fragilisé. D'ailleurs, probablement, Moscou l'avait choisi à ce poste parce qu'il était fragile. Il était fragile à cause du temps qu'il avait passé dans les usines Messerschmitt en Allemagne pendant l'occupation, sans qu'on sache s'il y était allé plus ou moins complaisamment, on va dire, ou vraiment pris par la peau du cou. Donc ça a été son point faible, et je crois que Moscou aimait bien avoir à la tête des partis européens, des partis de l'Europe de l'Ouest, des hommes un peu fragilisés. Waldeck-Rochet n'était pas fragile pour eux, hein, il avait été dans la résistance, il avait été du bon côté, donc il n'était pas fragile, donc il a été vite éliminé. Vous savez comment il a été éliminé? Il est tombé malade et il est allé se soigner en Russie. Et alors, à ce moment-là, j'ai rencontré Aragon. Il se trouve que j'ai rencontré Aragon pour d'autres raisons que je raconte dans le livre. Et Aragon me dit, vous pensez, il est envoyé, c'est fini, il revient, il est mort. Il m'a dit, moi, on m'a proposé souvent de me faire soigner à... jamais, vous pensez, hein, je tiens à la vie. Et en effet, c'est un peu ce qui s'est passé. Je ne sais pas si les soupçons d'Aragon étaient tout à fait justifiés, mais c'est vrai qu'il est revenu de Moscou, il est malade, il est tombé très malade, il était remplacé par Marchais, et il est mort très très vite. C'était un brave homme, ce n'était pas une flèche non plus.
Tous pourris, les hommes politiques ?
Non. Vous savez, moi... mon ami Bernard Pivot, qui a écrit dans cette belle collection du dictionnaire amoureux, m'a dit « Dictionnaire amoureux de la politique, t'as l'amour vache ». Je lui ai dit « Oui, peut-être un peu, mais on peut avoir l'amour vache et être amoureux quand même ». Je crois que les hommes politiques sont comme nous tous, hein, qu'il y a parmi nous des gens qui sont plus ou moins scrupuleux, même des gens qui sont un peu malhonnêtes. Il y en a quelques-uns, hein, sur les milliers d'hommes et de femmes qui font de la politique en France, mais enfin, il n'y en a pas plus. Et regardez, vous voyez tous les jours qu'il y a des affaires dans les autres pays et qu'on croit les plus rigoureux. En Allemagne, on a eu coup sur coup le président de la République qui a été obligé de démissionner. Et maintenant, c'est le maire de Berlin. Alors, il ne faut pas nous donner aussi beaucoup de leçons. Je ne parle pas de l'Italie, évidemment. Et donc, je crois qu'en France, on a plutôt moins de corruption que dans beaucoup d'autres pays. Et notamment, les hommes politiques ne sont pas plus canailles que les autres. Mais enfin, bon, évidemment, il y a tellement de tentations quand on fait de la politique et qu'on exerce des hautes fonctions que très souvent, les gens très légèrement... prennent des risques inconsidérés et sacrifient souvent leur carrière pour des bêtises, pour des queues de cerises.
Oui, comme l'histoire de l'appartement de Bérégovoy.
Oui, l'histoire de Bérégovoy,
c'est
complètement ridicule. D'abord, c'était 1 million de francs à l'époque, je me rappelle. Je suis allé à Nevers en plein... Il était l'élu de Nevers. Hein, je suis allé à Nevers en plein pendant cette affaire-là, juste avant les élections législatives de 1993. Oui.
93.
Je suis allé à Nevers et il y avait un banquet des anciens du Parti Socialiste. Alors, il y avait beaucoup de monde, le département était bien socialiste et bien tenu depuis Mitterrand, et il est arrivé, et puis moi j'étais là à une table, à un bout de table, et puis il y avait un brave ancien du Parti Socialiste, et je lui dis « Oh !» on fait beaucoup d'histoires pour un malheureux million. Et il me regarde, mais alors absolument comme si je parlais un langage bizarre. Il me dit, mais monsieur, dans la Nièvre, avec 1 million, on a un château. Et donc...
Mais c'est surtout voilà. les gens de son parti qui se sont acharnés sur lui.
Oui, c'était un... Écoutez, je crois que j'ai très bien connu Bergoglio, parce que je l'ai connu avant le congrès d'Épinay. Il se trouve que, bon, il était déjà au Parti Socialiste, parce qu'il était au Parti Socialiste bien avant Épinay. Et il a d'ailleurs faisait partie de l'équipe du premier secrétaire Savary, donc de la mouvance Guy Mollet, qui au départ n'était pas pour Mitterrand. C'est après Épinay qu'il est passé dans le camp de Mitterrand. Et donc, je connaissais bien et je n'arrivais pas à concevoir qu'il soit vraiment malhonnête. Il me paraissait trop... comment dirais-je, trop loin de tout ça pour être vraiment malhonnête personnellement. Et puis, j'avais été le voir dans cet appartement qu'il avait acheté avec le million de Pelat dans les beaux quartiers. Alors, je pense que, voilà, tout ça, ça ne correspondait pas au personnage. Je pense que pour les hommes politiques, pour certains hommes politiques, il y a le pouvoir, l'exercice du pouvoir s'accompagne d'une promotion sociale tellement brutale, tellement imprévue, que quelquefois ça les amène à perdre un peu la tête et à perdre le sens de la mesure.
Parlez-nous un peu de l'homme au gant. Celui que j'appelle l'homme au gant qui va au marché acheter ses pâtisseries avec les gants.
Ouais. Oh, ben c'est un personnage assez curieux.
C'est Balladur.
Édouard Balladur, et c'est un personnage assez curieux. Mais comme j'avais eu des relations de confiance avec Pompidou, avec son patron Pompidou, il se trouve que bon, j'avais eu donné des. J'avais une relation assez, bonne, on va dire, bonne. Bon, je ne l'aurais pas tutoyé ni tapé sur l'épaule, vous pensez bien, personne ne l'a jamais fait. Et donc, c'est un personnage assez étonnant. Alors, à l'époque, il y avait eu la cohabitation donc, avec le gouvernement Chirac, et il était ministre des Finances chargé des privatisations. C'était un personnage important, il faisait toute la politique du gouvernement. Chirac faisait de la politique, point. Il se préparait aux élections et il laissait Balladur faire les privatisations, les nationalisations, les nominations aussi, parce que quand même, ça a joué un très grand rôle dans l'échec de Chirac. Ils ont voulu passer beaucoup, beaucoup de leurs amis à la tête des entreprises qui reprivatisaient, ça a eu une influence très très fâcheuse. Ça a permis à Mitterrand de faire campagne sur les coquins et les copains, qui se servaient bien. Et donc Balladur s'était réinstallé rue de Rivoli, au Louvre.
Donc il ne voulait pas partir.
Il ne voulait pas partir, parce qu'on avait commencé à construire le Bercy, c'était un chantier absolument colossal, et il ne voulait pas partir. Et on était en train de construire au Louvre, parce que tous les travaux du Louvre avaient commencé, c'était d'ailleurs un formidable chantier, c'était la plus belle réussite, on va dire, du règne de Mitterrand, le Louvre. C'est vraiment une... Moi, j'habite à côté du Louvre, j'y vais souvent, c'est quelque chose de formidable. L'autre jour, dans la nuit, la pyramide éclairée dans la cour du Louvre, c'est un spectacle à tomber à la renverse. Alors, Balladur, il m'entraînait vers la fenêtre et puis il me disait « Ça vous plaît, ça ?» Ça vous plaît, montrer la pyramide. Je disais, écoutez, ça me plaît beaucoup. Puis je vais vous dire quelque chose. Mon père, il habite là, dans le quartier. Il a 95 ans. Il va tous les jours regarder la pyramide. Il est tellement fier qu'on ait trouvé quelque... Alors, je crois que là, ce jour-là, la confiance entre nous en a pris un sérieux coup.
De quoi est fait le garçon propret, là, qui manie la langue de bois de façon extraordinaire, qui est maintenant ministre des Finances?
Ah oui, je vois.
Propre sur lui.
Oui. Oh, bah, c'est amusant, oui.
Il était d'abord journaliste.
Enfin, il était journaliste. Non, il était jeune journaliste. Il avait été engagé à Europe numéro 1. Moi, il se trouve que j'avais fait quelques articles dans un journal que son père avait racheté, qui s'appelait, je crois bien, la Gazette du Parlement, un truc comme ça. Donc, je connaissais un peu son père. Et puis, un beau jour, on s'en va, je m'en vais, c'était pendant une campagne électorale, je ne sais plus laquelle, probablement des élections régionales. Je m'en vais dans Corrèze pour aller voir Chirac. Et il était là, lui aussi, un jeune homme. Alors on passe toute la journée avec Chirac, on bouffe, bon, je ne sais pas si on a bouffé de la tête de veau, mais enfin on a bu et mangé beaucoup. Et puis on est rentré, Chirac était très... fallait voir Chirac dans les... Chirac en Corrèze, c'était quand même un spectacle assez amusant. Et on revient et il me dit « j'ai un conseil à te demander, peut-être à vous demander. J'ai un conseil à vous demander, je me demande si je ne veux pas faire de la politique. » Alors comme je savais qu'il était il était chouchou de Chirac, bon... C'était clair que le truc était fait. Chirac lui a dit, tu te présentes, puis je te mettrai aux bons endroits. Et donc, moi, je n'ai pas voulu me mouiller. Hein. Je lui ai dit, oh là là, si tu me poses la question, c'est que tu as déjà la réponse dans ta tête. Et en effet. Et vraiment, j'aurais jamais pu imaginer, pourtant j'ai un peu d'imagination, j'aurais jamais pu imaginer que ce garçon devienne... ministre des Finances d'abord, et puis et surtout maintenant une belle ambition qui s'est forgée comme ça. C'était pour moi, c'était le petit-fils à papa un peu.
Et donc Chirac était devenu une sorte de papa de,
ouais, c'est son nouveau père. Chirac était très ami avec le père, Michel Barouin, qui était un grand monsieur, hein, qui était le...
C'était le patron de la garantie mutuelle des fonctionnaires.
Patron de la GMF, de certaines autres choses, et en plus, grand maître du Grand Orient de France. Donc c'était un personnage éminent, et je pense que Chirac a poussé beaucoup le fils, et voilà, mais Loisillon est devenu un coq de combat. Eh ben, c'est très bien, on verra où il ira. Cela dit, c'est vrai qu'il pratique beaucoup la langue de bois. Hein.
Alors avec justement, dans plus, le domaine de bois, alors vous avez une entrée, et vous dites le Paganini de la langue de bois, c'est Chirac.
Oh oui, il est formidable, Chirac, mais là, il faut savoir faire la langue de bois, vous savez.
Ah oui, ça s'apprend. Hein, mais...
Ça s'apprend, c'est toute une histoire, enfin, faire la main, asséner des vérités qui sont des contre-vérités avec une superbe, magnifique, pratiquer, Chirac, il pratiquait la méthode Coué comme personne. Il vous disait, regardez, quand on relit ces discours à la veille des élections, à la veille de la présidentielle de 81, on vous disait, mais je serai évidemment élu, c'est évident. Et donc, Giscard ne peut pas être élu, et les Français ne voteront jamais pour Mitterrand, ça sera donc pour moi. Et donc, il a eu formidablement c'est une constante de sa... De sa carrière, il a eu une superbe et un optimisme absolument impavide qui force l'admiration. Je crois que pour faire de la politique, il faut ne douter de rien, et d'abord, surtout, pas de soi-même. Il faut ce qu'on appelle une ambition, mais une ambition, ça a l'air d'être un petit appétit. Non, une haute idée de soi-même. Hein. Je crois que on reproche beaucoup aux hommes politiques d'être un peu arrogants, mais je crois qu'il faut être orgueilleux pour faire de la politique. L'ennui, c'est qu'il faudrait aussi être pour de temps en temps un peu humble. Or ça, l'humilité, je n'ai pas beaucoup rencontré dans ma longue carrière politique. Il faudrait un peu d'humilité quelquefois en face des faits et en face de la vérité. Hein. C'est bon de mentir un peu, il faut mentir en vérité. En politique, il faut avoir des relations un peu coupables avec la vérité.
Vous dites même les politiques, surtout, ils ne doivent pas la dire.
Bien sûr. Donc, voilà. Mais les hommes politiques, oui, en effet, il faut qu'ils aient une forte idée d'eux-mêmes pour pouvoir faire ce métier-là. Et surtout, s'ils se présentent capables d'être président de la République ou chef du gouvernement, il faut vraiment avoir une haute idée de soi-même. On leur pardonne beaucoup de choses pour ça.
Pourquoi Fabius, finalement, la politique a été ingrate vis-à-vis de Fabius ?
Ah ben, ce qui s'est passé avec Fabius, c'est que ça a été un départ éblouissant. C'était le plus jeune ministre de la France depuis longtemps, depuis Gambetta. Enfin, tout le monde trouvait que c'était formidable. En plus, Mitterrand commençait à vieillir. Il avait vraiment bien rajeunissant. Et puis, il a été un peu suffisant. Ça, c'est le défaut de nos énarques. Hein, les énarques, c'est un énarque bien né, il a fait normal, énarque. Le papa était un grand, grand antiquaire parisien. C'était un peu incongru au Parti Socialiste. Hein. Quand je le vois dire dans les congrès « camarades, camarades », je trouve ça bien, mais enfin, je pense que c'est pas très, très plausible, même pour ses camarades. Enfin, bon, bref. Et il a été un peu suffisant et il a eu, vous savez, il faut peu de choses pour détruire une carrière politique, peu de choses. Et Fabius, il a été éliminé de la vie politique avec son combat, son duel avec Chirac à la télévision. Quand il lui a dit « Vous parlez au Premier ministre de la France ».
Premier ministre de la France.
Et que Chirac lui a dit « Tournez pas autour de moi comme un roquet, là ». Ah, c'était fini. Et puis, il y a eu l'affaire du sang contaminé, mais là, il était déjà par terre. Alors maintenant, maintenant, on peut lui reprocher aussi son attitude au moment du référendum européen qu'il n'aurait pas eu si Mitterrand avait été là. Donc, il a eu une volte-face qui était probablement funeste. Il avait été aussi tué par un... Vous savez, les dessinateurs sont souvent les meilleurs chroniqueurs de la vie politique. Moi, j'en vis. Hein. Quand je regarde les dessins de Plantu à la Une du Monde, je me dis, c'est vraiment le meilleur commentateur de la vie politique que nous ayons. Et Fabius, il a été tué par les dessins de Jacques Faisan dans le Figaro, qu'il présentait toujours avec un parapluie. Vous voyez, il était là, tout enfant sage, avec son petit parapluie. Et ça a été mortel pour lui. Hein. Et enfant mortel, ça a ajouté à beaucoup de choses. Alors aujourd'hui, il revient avec Hollande. On va voir où il ira. Moi, j'ai trouvé surtout que c'est dommage, il a peut-être loupé sa vocation. Parce qu'il a écrit un livre qui s'appelle « 12 tableaux hein, qui ont fait
oui.
la France »
ou oui, «
le,
oui, oui, oui.
le salon des expositions ». Je ne me rappelle plus le titre exact. C'est un livre sur la peinture. C'est une espèce de commentaire à travers
le cabinet des 12
grands tableaux qui ont fait la France. Le cabinet des 12, oui, c'est ça. Et c'est un livre formidable. Alors, c'est un livre formidable et il raconte que lui a été fils d'antiquaire et fils de marchand de tableaux et que jusqu'à un âge très avancé, il ne pouvait pas supporter, il faisait un rejet de tout ce qui représentait la peinture, l'art, les tableaux, les antiquités, un rejet total. Et puis tout d'un coup, Il a eu son chemin de Damas et maintenant il est devenu complètement fou. Il va à toutes les expositions, il va dans les musées, il a même racheté en partie avec des copains une société de vente. Et moi je me dis qu'il a peut-être loupé sa vocation, mais bon, vous savez, bon, on ne sait jamais. S'il est demain ministre des Beaux-Arts.
Comme on est à Bordeaux, pourquoi Juppé est fâché à mort avec vous ?
Oh, c'est une histoire de corne-gidouille. Hein. quand il a sorti son livre qui s'appelait « La tentation de Venise », j'ai commis une impertinence qui était de mauvais goût. J'ai dû dire au micro que ça valait pas mort à Venise. C'était idiot, j'en conviens. C'était bête. Mais il y a eu une telle orchestration de l'éloge autour de ce livre que ça m'a probablement agacé un petit peu. Donc, vous savez, les chroniqueurs de la radio, ils ont des humeurs aussi, ils ont des caprices, et donc je m'étais permis ça. Alors, il a été furibard et m'a envoyé une lettre manuscrite dans laquelle il me conseillait d'apprendre mon métier. Je n'avais pas appris mon métier. Donc, bref, j'ai pas voulu être en reste. Je lui ai envoyé par porteur une petite édition de poche de Mort à Venise et j'ai mis simplement pour votre information. Hein, et alors il était encore plus furibard et m'a renvoyé le livre aussi sec, il l'a pas gardé, il a eu tort. Et il va en retour. Voilà, nos relations donc là ont été considérablement altérées. Mais moi, j'ai jamais été malheureux d'être que les hommes politiques. Il y en a beaucoup qui d'un coup m'en voulaient terriblement. Ça ne m'a jamais fait de peine. J'ai dit quelquefois aussi, j'ai une phrase un peu malheureuse peut-être. J'ai dit, moi j'ai une devise que j'ai empruntée à Molière dans le Tartuffe, faire enrager le monde est ma plus grande joie. Orgon dit ça à un moment où on lui dit tu devrais te séparer de Tartuffe, il dit ça. Et voilà, bon, bah, je suis un peu comme ça.
Merci. Les personnes qui veulent se faire dédicacer un ouvrage avancent. Monsieur Alexandre, je vous laisse la place, comme ça vous avez plus accès facilement avec les personnes.